Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Politique à 36 et parlons de mémoire cette fois-ci. Elie Ramanenka va nous livrer un texte profond et instructif sur Madagascar et sa mémoire et le titre « Madagascar et l'oubli ». Jeu de mots, bonne écoute.
Madagascar et l'oubli. L'histoire d'un peuple est entièrement fondée sur une mémoire partagée appelée couramment « mémoire collective ». Elle est le réceptacle des traces laissées par l'existence commune d'un peuple. Là résident les événements marquants, les mythes, les légendes, les tabous, les valeurs, la religion, en définitive, ce qui forme l'esprit ou l'essence d'une nation, ou encore son ADN mémoriel. En rapport avec cette notion, le cas de Madagascar est très particulier du fait de l'étendue de l'oubli au cœur même de la mémoire collective malgache, rendant l'histoire et le devoir de mémoire essentiels. Zone d'ombre. Les experts s'accordent aujourd'hui sur le fait que le peuplement de Madagascar s'est déroulé en deux vagues. La première se situe aux alentours du 8e siècle et la deuxième aux alentours du 14e siècle. Les deux vagues ont pour origine l'Asie du Sud-Est. La première vague a donné naissance à un premier peuple génériquement appelé Vazimb. C'est avec la deuxième vague que va naître l'organisation en royaume du peuple malgache tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ainsi apparaît dès le 15e siècle les premiers royaumes, aboutissant au 18e siècle sur le royaume de Madagascar, un rêve unificateur qui, les péripéties faisant, n'a pu être mené à son terme. Au cours de cette histoire, dès les prémices, une zone d'ombre immense s'étend et une question sans réponse se pose. Pourquoi ce peuple venu d'ailleurs, arrivé sur la grande île, n'a pas raconté son histoire? Que s'est-il passé au-delà des mers? L'écrivain malgache Jean-Luc Raharman souligne admirablement cette contradiction. Nous avons oublié ou feint d'ignorer que nous venons d'ailleurs, d'un ailleurs qui nous avait chassés ou poussés sur les mers à bord de nos boutres chétifs. Inventant des origines célestes, créant des mythes nouveaux, nous avons effacé notre passé, occulté notre véritable histoire. Ce dérivage affirme maintenant qu'ils descendent du prophète. Que jalousés, persécutés, ils avaient préféré quitter la Terre Sainte et échouer sur ses rivages. Ceux des Sims soutiennent que la fille de Dieu était descendue sur cette terre pour épouser leur ancêtre, le premier homme. Que disent ceux des savanes? Que disent ceux des rochers? Que disent ceux des îlots, ceux des fleuves, ceux des sables? L'oubli, rien que l'oubli. Nous avons tant fermé les yeux sur nos origines que le fil des temps s'est rompu et nous a rendus aveugles, évoque-t-il dans son roman Nour 1947. Écrit. Ce premier oubli en recouvre un autre qui constitue un véritable mystère. Quels événements entourent la disparition ou la spoliation des Vazim de leur autorité et de leur terre? D'aucuns ne parlent de guerre, d'élimination, de mariage politique, une violence avalée par le temps encore et scellée par un silence tenace. Et comme tous les inconnus de l'espace-temps, cette période est devenue mythe, où le Vazimb, comme tout vaincu, est habillé d'oripeau, de longues dents, érigé en un véritable figure d'épouvante ou de sous-homme. Aujourd'hui encore, dans la conscience collective du malgache, Vazimb demeure un terme péjoratif. L'histoire de Madagascar est l'une des seules histoires africaines dont on dispose d'écrits qui ne soient pas le fait d'étrangers. Le premier de ces écrits est constitué par les histoires de Raumban. Une histoire de Madagascar couchée sur papier par l'un des plus éminents personnages de la cour de la reine Ranavalna Ier, son secrétaire, neveu du défunt roi Radama Ier, le prince Raumban. En plus d'être méconnu, car l'histoire léguée par Raumban n'est pas enseignée, sauf peut-être dans les facultés d'histoire, on retiendra des récits qu'il fait du règne des différents rois de l'Imeren, celui du roi Indianapunmeren, celui considéré comme le plus grand souverain de l'Imeren. Raumban rappelle que ce roi, présenté comme bon et vertueux, est monté au pouvoir non par succession légitime, mais par un crime régicide sur la personne du seigneur de la Varajan, Andjianzaf Nandjimanch, au bout de 7 années de guerre civile. Plus tard, il va tout faire pour que son fils préféré lui succède jusqu'à assassiner ses autres enfants. Et même Raumban a de rapporter que de temps à autre, Indianapunmeren a ordonné d'administrer le Tongan à des villes entières, des villages entiers, dans des actes constituant de véritables génocides. Tout cela brosse un portrait bien éloigné de l'image qu'a ce roi dont la mémoire collective a érigé en divin monarque et surtout montre que les problèmes de succession à Madagascar remontent à plus loin encore que la République malgache. Quiproquo. En effet, l'histoire léguée par Raumban est d'une importance capitale. Elle souligne entre autres que le cycle des crises politiques et des problèmes de succession remonte à bien avant la naissance de la République de Madagascar en 1960. Elle permet de faire ressortir les traits d'un oubli qui circonscrit le problème de l'instabilité politique malgache dans une limite inexacte et trop courte de 1960 à ce jour, incapable d'embrasser le fait dans toute son étendue. D'ailleurs, le parallèle entre le royaume et l'État est un fait linguistique unique en son genre. En effet, dans la grande île, le même mot, Fanzakan, désigne à la fois l'État républicain d'aujourd'hui et la monarchie d'antan, ou plus précisément, le royaume. Un terme portant à confusion mais qui n'a jamais été précisé. Il laisse de cette manière planer sur les consciences un quiproquo entre le roi ou le Panzak et les dirigeants d'un régime qui se veut démocratique. Une particularité de la langue malgache qui met en exergue une continuité historique et un amalgame dangereux. La peinture malgache et l'oubli. Cet oubli qui a été brossé par ces quelques faits non exhaustifs érode la réalité du malgache. Une réalité qui, du fait de ses vides, de ses distorsions, de ses amalgames, n'est pas encore vécue à sa hauteur véritable. Ce qui rend tout travail sur la mémoire en terre malgache essentiel afin de remettre le réel à l'échelle de l'histoire pour préciser les faits et éviter des confusions. Et enfin, pour arrêter la valse de l'oubli semblant aujourd'hui devenue comme une sorte de réflexe défensif de cette mémoire collective de plus en plus courte. Car cet oubli n'est pas le seul fait de l'histoire, il touche entre autres la culture. Parmi les faits les plus marquants de cette extension figure le cas de la peinture malgache, particulièrement démunie en matière de recherche dans le domaine de l'histoire de l'art. La grande île a vu en 2022 la parution d'un ouvrage majeur dans ce domaine avec « Peintre de Tananarive, palette malgache, cadres coloniaux » de Pauline Mangino. Il s'agit d'une étude systématique sur le rôle de la peinture dans la société malgache qui arrive à souligner le fait que cette pratique est avant tout un instrument politique. L'ouvrage rappelle que la première peinture réalisée à Madagascar a été exécutée par André Copal. Achevée le 18 janvier 1826, cette toile représente Radam Ier. La fonction de cette œuvre, selon la chercheuse, est d'exhiber et légitimer la puissance royale. Une fonction qui est exacerbée sous la colonisation française quand la peinture devient l'instrument de représentation et de mise en scène de l'empire colonial et de sa domination multidimensionnelle. Durant cette époque, allant de 1896 à 1960, les Français s'appuient sur les peintres malgaches pour porter leur politique patrimoniale autant que pour jouer un rôle dans le développement d'une propagande coloniale. Exotique. Interviewé sur la résurgence des normes du figuratif dans l'art visuel malgache d'aujourd'hui, Joël Andianoumiarsou, un des pionniers de l'art contemporain malgache, directeur artistique de Inquinte Contemporary, n'hésite pas à désigner le figuratif comme colonial. Très peu en ont conscience, mais représenter le paysage, les visages, les hommes de cette manière, c'est perpétuer l'héritage d'une domination étrangère. Déclare-t-il, avant d'affirmer que cet état de choses est tout bonnement la manifestation de l'état dans lequel la société malgache est, c'est-à-dire obnubilée par un passé révolu en oubliant tout ce que ce passé représente. Une situation regrettable en ce qu'elle rend tout progrès, sinon impossible, du moins indésirable aux yeux des malgaches. Ainsi, va des réactions violentes du public devant d'autres standards de beauté, autres que figuratifs, avec le trop répété « Aizan ilaima malagasyamzo » ou donc « est la malgacheté ici », sans savoir que les normes de la peinture figurative avec les marchés, les charrettes, les ébus ont été importées pour cantonner les expressions artistiques d'ici dans l'exotique servant à montrer la diversité et l'étendue de l'empire colonial français. La poésie malgache et l'oubli. Si l'oubli est presque généralisé dans le domaine de la littérature malgache, c'est dans la poésie qu'il est le plus évident. Pour ce qui est des poètes avalés par le temps, les noms ne manquent guère. Mais Jacques Rabé-Mananzar demeure le parfait exemple des oubliés de la poésie malgache. D'abord, parce que cet homme de lettres, en plus d'avoir été partie intégrante du grand mouvement littéraire africain qu'est la négritude, a également été un éminent homme d'État sous la Première République de Madagascar. Il a été ministre des Affaires étrangères du premier président de la Grande-Île après l'indépendance. Une indépendance dont il est l'un des acteurs clés, étant le fondateur du parti politique Mouvement démocratique pour la rénovation malgache MDRM. Dès lors, se posent des questions comme « Pourquoi, quand on parle de négritude, jamais n'évoque-t-on le nom de Rabé Malanzar ?» ou « Pourquoi, à Madagascar, il a été très peu lu ?» Les raisons à cela sont notamment l'isolement géographique dû à l'insularité et l'éloignement des grands ensembles régionaux comme l'Afrique, le Caraïbe ou encore le Maghreb. Ces raisons sont applicables à tous les poètes et à tous les écrivains de la Grande-Île, mais leurs conséquences sont plus intéressantes encore. Rabé Malanzar est un poète novateur, car avec la trilogie carcérale, notamment les poèmes comme « Hintz », « Antidote » ou « Limbe », il refait la poésie malgache en langue française. Il le libère des rythmes d'ailleurs, il le délivre des exigences du rime, il est l'un des tout premiers à user du vers libre. Cette innovation, il le revendique et l'affirme, jusqu'à dire qu'un poète n'est vraiment valable que s'il apporte quelque chose qui, sans lui, n'aurait jamais existé. Avec un Jacques Rabé Malanzar oublié, c'est cette injonction et ce besoin d'inédit qui est enterré en emmenant avec lui le dynamisme de la poésie malgache. Résultat, aujourd'hui, à part de rares exceptions, la poésie malgache n'est plus qu'une poésie endémique, figée dans une forme réitérée à l'infini, promue par des associations de poètes constituées en cercle fermé qui imposent, consciemment ou inconsciemment, un standard figé. La porte de sortie est constituée par ces très jeunes poètes qui pullulent ici et là, mais encore faut-il structurer cette fraîcheur nouvelle en réintégrant ces poètes oubliés afin de poursuivre la marche de l'innovation sans quoi la poésie ne peut être. Un oubli généralisé devenu mécanique. Partant de tous ces faits, nous pouvons parler d'un véritable oubli généralisé. Le malgache a oublié qu'il est le fruit d'un métissage. Il a oublié que les griefs qu'il a envers le malgache comme lui, issu d'une autre région de l'île, résultent d'une conquête violente exacerbée par la colonisation. Que son histoire cache de véritables génocides, qu'ici, les guerres de succession sont la règle, qu'hier n'était pas un âge d'or, que tout n'est pas la faute du colon, que derrière ses pratiques artistiques se cachent les rouages d'une domination sourde et qu'il fait partie d'un monde plus large que son île. Cet oubli facétieux est devenu chez lui un véritable automatisme mécanique, si bien que le laps de temps séparant le souvenir de l'oubli s'amenuise de jour en jour. Non par magie, mais par des engrenages bien réels comme la place mineure qu'occupent l'écrit et le savoir dans la société malgache contemporaine. Cet engrenage, Sami Tchak en parle sous le terme de dynamisme schizophrénique. Cet écrivain et sociologue africain soutient que les sociétés et les États africains ne sont compréhensibles que si on les aborde par leur logique contradictoire sous l'angle de la schizophrénie. Sami Tchak déclare dans cette optique que le folklorique dans l'affirmation de soi des Africains, à partir d'une illusion de retour à l'authenticité, conjuguée avec une frénétique occidentalisation, relève de la blessure profonde du moi individuel et collectif des peuples noirs. Et quand on sait qu'avec un traumatisme survient toujours l'amnésie, que l'amnésie charrie une obsession même de l'acte traumatisant, on comprend très vite que cet oubli caractériel de la société malgache n'est pas pour rien dans la difficulté du peuple malgache à cerner le concept de progrès.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, vous nous retrouverez sur votre chaîne, vos kiosques habituels et sur nos supports digitaux. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Participe en collaboration avec l'Union européenne. À très bientôt.